Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Cameroun, le leader du mouvement séparatiste anglophone, Ayouk Tabé, extradé du Nigeria.
Au Burkina Faso, le procès des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveau présumé du putsch manqué de septembre 2015, est prévu pour le 27 février.
Au Sénégal, manifestation de centaines de personnes hier à Saint-Louis après la mort d'un jeune pêcheur sénégalais tué par des gardes-côtes mauritaniens.
Ici à Washington, discours du président américain Donald Trump sur l'état de l'Union ce soir au Congrès.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, le leader du mouvement séparatiste anglophone, Ayouk Tabé, a été extradé du Nigeria en même temps que 46 autres personnes qualifiées de sécessionnistes par Yaoundé. Cette nouvelle a été annoncée hier dans une déclaration à la presse par le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Tchiroma Bakary. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jumtap.
Le porte-parole du gouvernement sur un ton solennel a annoncé que ceux-ci vont répondre de leurs crimes devant la justice du Cameroun. Le Cameroun qui se félicite de la coopération avec le gouvernement nigérian dans l'extradition de Ayouk Tabé et 46 autres sécessionnistes. Issa Tchiroma Bakary, porte-parole du gouvernement camerounais.
Le gouvernement camerounais saisit cette occasion pour se féliciter du caractère excellent de la coopération multiforme qu'entretiennent le Nigeria et le Cameroun, notamment au plan sécuritaire.
Le porte-parole du gouvernement camerounais n'a donné aucune information sur le lieu de détention des 47 sécessionnistes ou encore la date de leur extradition au Cameroun. Ils seraient gardés sur un site hautement sécurisé, tenu secret. Un collectif de 4 avocats s'est déjà constitué pour les défendre. Yaoundé, Emmanuel Julunta, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le procès des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveau présumé du putsch manqué de septembre 2015, est prévu pour le 27 février devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
Le procès du putsch manqué de septembre concerne le général Gilbert Diendéré et 83 autres co-accusés. Le procureur militaire Alioune Zaré a précisé que l'audience va être publique. Le général Diendéré, qui a pris la tête du coup d'État, et les autres personnes poursuivies sont accusées, entre autres, d'attentats à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires, trahison ou complicité de ces infractions. Le 16 septembre 2015, des soldats du régiment de sécurité présidentiel, ancienne garde de l'ex-président Blaise Compaoré, ont tenté de renverser le gouvernement de la transition. Le putsch a échoué grâce à une mobilisation populaire soutenue par une partie de l'armée. Le général Djibril Bassolé, placé en résidence surveillée, a été inculpé de trahison sur la base d'un enregistrement d'une supposée conversation téléphonique entre lui et Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne.
Dans le nord du Sénégal, des centaines de personnes ont manifesté hier à Saint-Louis après la mort d'un jeune pêcheur sénégalais tué par des gardes-côtes dans les eaux territoriales mauritaniennes. Abdourahmane Dia fait le point.
Les manifestants ont été dispersés par la police à coups de grenades lacrymogènes. Au moins 3 boutiques de Mauritaniens ont été pillées. Des véhicules ont été incendiés. Ce week-end, des gardes-côtes mauritaniens ont tiré sur une pirogue dans les eaux mauritaniennes et un jeune pêcheur a succombé à ses blessures. Omar Gueye, ministre sénégalais de la pêche, a condamné cette intervention tout en appelant les manifestants au calme. L'accord de pêche entre Dakar et Nouakchott n'a pas été renouvelé depuis janvier 2016. Le Sénégal a refusé d'observer l'obligation de débarquer les prises en Mauritanie, comme l'impose une nouvelle réglementation mauritanienne. Depuis, les incidents se sont multipliés entre gardes-côtes mauritaniens et pêcheurs artisanaux, souvent accusés de violer l'espace maritime mauritanien. En 1989, la crise entre le Sénégal et la Mauritanie s'était soldée par des centaines de victimes des deux côtés et la rupture des relations diplomatiques pendant plusieurs années.
RDC, le Comité pour la protection des journalistes, a appelé hier les autorités congolaises à enquêter sur les individus responsables du harcèlement et de la détention de Willy Akonda, journaliste auprès de l'organe de presse privé Actualité CD, et à les traduire en justice. Selon le CPJ, des agents du service du renseignement militaire congolais ont détenu le 23 janvier dernier notre confrère Akonda pendant 9 heures, l'accusant d'avoir pris des photos qui, je cite, « compromettait le président Joseph Kabila ». Il s'agissait, dit-on, de photos sur les conditions de transport du pain à Kinshasa.
En RDC même, l'UDPS, le parti de l'opposant Étienne Tshisekedi, a annoncé la célébration jeudi à Kinshasa d'une messe dédiée à la mémoire de son fondateur. Ce sera à l'occasion du premier anniversaire de la mort d'Étienne Tshisekedi. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est par communiqué que l'UDPS a annoncé qu'une messe sera célébrée à 9h30 à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa jeudi prochain. La messe sera suivie par des activités politiques au siège du parti à Limété. Ces cérémonies d'hommage et de souvenirs sont à l'initiative des familles politiques et biologiques de Tshisekedi, précise le communiqué. Plusieurs fois annoncé, son rapatriement a toujours été reporté, faute d'entente entre les autorités congolaises, sa famille et son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le climat politique est très tendu en RDC où une dizaine de personnes ont été tuées les 31 décembre et 21 janvier dernier lors de marches interdites organisées à l'appel d'un collectif catholique. Étienne Tshisekedi est une figure historique de l'opposition en RDC, d'abord sous la dictature du maréchal Mobutu jusqu'en 1997, puis face à la famille Kabila. Son fils Félix Tshisekedi est l'actuel président du Rassemblement de l'opposition.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a souligné hier que les États-Unis ne veulent pas de pourparlers avec les talibans afghans après une série d'attaques meurtrières en Afghanistan. Il parlait lors d'un déjeuner de travail avec des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en visite à Washington pour examiner des débris présumés de missiles iraniens. La représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, avait donné une conférence de presse en décembre dernier dans une base militaire à Washington pour révéler ces débris qu'elle avait qualifiés de preuves indéniables des fournitures d'armes illégales de l'Iran aux rebelles houthis du Yémen. Elle avait ajouté que le missile tiré sur un aéroport civil à partir du territoire yéménite aurait pu causer la mort de centaines de civils innocents en Arabie Saoudite.
Andrew McCabe, le numéro 2 du FBI, a décidé de quitter la police fédérale américaine à quelques semaines de la date officielle de sa retraite. Le président Donald Trump l'a critiqué à plusieurs reprises et publiquement pour manque d'impartialité dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et les mails de son ancienne rivale démocrate Hillary Clinton. M. Trump souhaitait, dit-on, le départ de M. McCabe. Les alliés républicains de M. Trump n'épargnaient pas non plus le directeur adjoint du FBI dans leurs critiques, mais la Maison-Blanche dément avoir fait pression pour sa démission.
D'autre part, les membres républicains de la commission du renseignement de la Chambre des représentants ont décidé, sans le soutien de leurs homologues démocrates, de publier un mémorandum républicain qui montrerait, selon ce texte, un parti pris anti-Trump au ministère de la Justice. En revanche, les républicains ont refusé de publier le document préparé par la minorité démocrate pour réfuter leurs arguments. Certains républicains qui ont vu le mémorandum de la majorité laissent entendre que ce document contient des informations qui pourraient faire échouer l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'affaire russe que le président Trump a toujours qualifié de chasse aux sorcières.
Face aux deux chambres réunies du Congrès, le président Donald Trump déclinera ce soir dans son discours sur l'état de l'Union sa vision d'une Amérique sûre, forte et fière. M. Trump tentera, comme à Davos, de mettre en avant la santé de l'économie et la vigueur de Wall Street, mise en perspective de Jean-Roger Bion.
Donald Trump va parler au pays tout entier, pas seulement à ceux qui ont voté pour lui, a assuré Raj Shah, porte-parole de la Maison-Blanche, dans une formule qui tranche singulièrement avec la tonalité belliqueuse de la plupart des tweets présidentiels. Symboliquement, ce rendez-vous solennel, minutieusement mis en scène, est le meilleur moment qui soit pour prendre de la hauteur et se placer au-dessus de la mêlée. Au-delà de la mise en avant de chiffres de croissance encourageants, 2,3% en 2017 contre 1,5% en 2016, l'immigration devrait figurer en bonne place dans ce discours prévu à 21h, soit 2h GMT dans l'hémicycle de la Chambre des représentants. Autre sujet central, les relations commerciales avec les autres grandes puissances, Chine en tête, tour à tour menaçant et conciliant au cours des mois écoulés, l'ancien homme d'affaires de New York pourrait bientôt trancher. Il y a quelques jours, il a à demi-mot menacé l'Union européenne de représailles et provoqué une vive réaction de Bruxelles qui a promis une réponse rapide en cas de mesures commerciales restrictives de la part des États-Unis. C'est un jeune élu au nom chargé d'histoire, Joseph Kennedy III, petit-fils de Robert Kennedy et petit-neveu de l'ancien président John F. Kennedy, qui prononcera la réponse des démocrates au discours présidentiel. Le jeune congressman de 37 ans sera concurrencé par le sénateur Bernie Sanders, blanchi sous le harnais, qui a promis de livrer ses réactions en temps réel sur les réseaux sociaux.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manihakiza.
La zone de libre-échange africaine verra le jour le 21 mars à Kigali. Des chefs d'État et de gouvernement du continent se rencontreront en réunion extraordinaire dans la capitale rwandaise. Les pays africains visent une intégration réussie pour l'aboutissement des projets communautaires. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique envisage une hausse de 52% du commerce intra-africain d'ici 2022, soit 35 milliards de dollars. Air Algérie connaît une situation financière difficile. Toutefois, le ministre des Transports, Abdelghani Zalane, a souligné que cette compagnie n'est pas en faillite, tout en appelant les salariés à mettre de côté des revendications sociales. Le directeur commercial d'Air Algérie a dernièrement affirmé que l'augmentation des salaires au détriment de l'équilibre financier de l'entreprise est impossible. Aux États-Unis, la Californie veut 5 millions de voitures vertes sur ses routes d'ici 2030. Son plan à 2,5 milliards de dollars sur 8 ans prévoit aussi l'installation de 250 000 stations de chargement pour véhicules électriques et 200 stations de chargement à hydrogène d'ici 2025. Le nombre de véhicules à zéro émission en Californie a augmenté de 1300% en 6 ans et atteint aujourd'hui plus de 350 000. La Californie veut aussi réduire les émissions de carbone de 40%.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Aubameyang, tout proche d'Arsenal.
Le transfert de l'attaquant gabonais du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, vers Arsenal est proche d'une concrétisation selon plusieurs médias britanniques et allemands. Selon la BBC et Sky Sport, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour 60 millions de livres, ce qui fait presque 68 millions d'euros. Après une première offre la semaine dernière, évaluée à 50 millions de livres, toujours selon les deux médias, le Borussia Dortmund espère recruter un remplaçant à Aubameyang avant de voir partir sa vedette vers l'Angleterre.
Sarro de retour en France.
Et l'international sénégalais Diafra Sakho qui quitte West Ham, il s'engage pour 2 ans et demi en faveur de Rennes. À quelques mois du mondial en Russie, pour lequel le Sénégal est qualifié, l'attaquant de 28 ans, ancien joueur de Metz, espère retrouver du temps de jeu pour convaincre le sélectionneur Aliou Cissé. Diafra Sakho n'avait plus joué avec West Ham depuis le 19 décembre en League Cup.
Encore un joueur de Mazembe qui rejoint une équipe américaine.
Ah oui, la direction du Phoenix Rising FC, qui joue actuellement en D2 nord-américaine, a confirmé la signature du défenseur Yeo Frimpong. Il s'agit du troisième joueur ghanéen ayant évolué au tout-puissant Mazembe à rejoindre la franchise de l'Arizona en l'espace de 4 mois après le milieu de terrain Gladson Awako et l'ailier Solomon Asante. Pas étonnant quand on sait que le Phoenix Rising est entraîné depuis mai 2017 par Patrice Carteron, qui avait dirigé les Corbeaux entre 2013 et 2016.
Miami a enfin son équipe de football.
Et oui, l'équipe de football de l'ancien international anglais David Beckham, situé à Miami, va intégrer le championnat nord-américain, annonce de la MLS hier. Toutefois, pas de date précise d'entrée dans la MLS pour cette équipe. La MLS qui compte déjà 23 franchises. Allez, Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Charlotte et Indiana 96-105, Minnesota et Atlanta 100-105, Phoenix et Memphis 109-120, Philadelphie et Milwaukee 95-107, Miami et Dallas 95-88, Boston et Denver, 111 à 110.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la fin à Addis Abeba en Éthiopie du 30e sommet de l'Union africaine. Un premier bilan avec notre correspondant sur place, Getachew Tedla.
Le développement durable du continent africain a toujours été au centre de la rencontre des leaders aux différents échelons et aux différentes assises. Il en a été ainsi au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les travaux viennent de s'achever à Addis Abeba. Sur cet aspect, à l'ouverture du président de la commission de l'organisation continentale, Moussa Faki Mahamat.
L'Assemblée générale a adopté la décision relative aux recommandations du rapport du président Kagame pour la réforme institutionnelle de l'Union africaine, soulignant la nécessité de transformer l'UNEPAD en agence de développement de l'Union africaine. À cet égard, j'ai instruit un groupe de cadres de la Commission et de l'agence de mener des travaux préliminaires d'analyse afin d'identifier les opportunités offertes par cette décision. Nous avons aujourd'hui une meilleure compréhension des domaines de chevauchement entre les activités menées par la Commission, les communautés économiques régionales et l'agence du NEPAD, ainsi que les défis relatifs aux ressources et au positionnement institutionnel de l'agence. Le groupe de travail que j'ai mis en place a pour tâche de formuler des recommandations techniques.
Conduire à bon escient cette mesure est confiée au président rwandais Paul Kagame, supposé apporter les réformes qui s'imposent dans le cadre du NEPAD, un nouveau partenariat pour le développement, sous son nouvel aspect.
The ongoing reform envisions NEPAD as the development arm of the African Union.
Le NEPAD, en tant qu'organe de développement pour l'Union africaine, constitue la priorité de taille. La mise en place de ces organisations occupera un espace plus accru. Il va sans dire qu'elles se targuent comme mission le développement de notre continent et répondre tant que se peut à l'attente de nos citoyens. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, qui a présidé le comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement, est aussi le président en exercice du NEPAD. Précédant les travaux relatifs à la corruption, le thème même de la rencontre des leaders a souligné du haut de la tribune.
Le transfert de bénéfices, appelé DEPS, est une étape très importante dans la lutte contre les flux financiers illicites, notamment l'évasion et la fraude fiscale. Une mise en œuvre de ce paquet de mesures élargie à tous les pays sera cruciale pour l'efficacité de ces règles et nous avons invité l'OCDE à y travailler. De même, les engagements souscrits par le G7 au titre du CONEX permettront d'améliorer le déséquilibre des contrats d'exploitation occasionnés par la faiblesse de nos ressources humaines dans les négociations contractuelles. Nous devons poursuivre nos efforts pour l'avènement de contrats miniers et pétroliers plus équitables en termes d'exigences fiscales et de justice sociale. J'invite l'agence du NEPAD à exploiter les conclusions de l'atelier organisé à Dakar afin d'identifier les besoins des États pour la négociation des contrats complexes, notamment dans les industries extractives, et à nous faire un rapport.
Getachew Tedla, Addis Abeba pour La Voix d'Amérique.
Dans le sud du Burundi, plus de 7000 réfugiés congolais fuyant les affrontements entre miliciens Maïmaï et les FARDC au sud Kivu sont arrivés dans la province de Rumonge. Les autorités provinciales les enregistrent avant qu'ils ne soient conduits vers un site d'accueil dans l'est du Burundi. Mais les réfugiés affirment ne pas recevoir de nourriture et un appel à l'aide a été lancé aux ONG. Christophe Prouniza a été sur place. Son reportage.
De la plage de Rumonge, à une centaine de kilomètres au sud de Bujumbura, ce bébé dans les bras de sa maman vient d'accoster d'une pirogue qui vient de la République démocratique voisine. Ce bébé a faim car depuis sa venue mercredi, aucune aide en nourriture n'a été donnée à ces réfugiés congolais, fuyant les affrontements entre miliciens Mai Mai et les FRDC. Témoignage de la maman du bébé qui pleure.
Mon bébé a faim. Nous sommes arrivés ici avant-hier. Nous avions peur des tirs, raison pour laquelle nous avons fui. Nous ne savions même pas qui sont les protagonistes. Nous avions peur et nous avons fui sans même manger. Le bébé pleure car il a faim. Nous n'avons rien à manger car nous n'avons pas d'argent.
Plus de 7000 Congolais ont transité par ce port de Rumonge au sud du Burundi. Ce jeune Congolais raconte son calvaire le jour où il a décidé de fuir les combats.
Là-bas, il était en tout cas le Mai Mai et le soldat de Joseph. On a beaucoup combattu. En tout cas, c'était très grave. Là, à Mizimu, je ne sais pas où, à Casimir aussi. Il y a beaucoup, beaucoup. Beaucoup de soldats sont là, alors les rebelles là sont là. C'est pourquoi on a revenu ici.
Kashimo Mirindi est âgé de 65 ans, il a 9 enfants. Il raconte son cauchemar.
Nous avons pris fuite. Il y a une guerre civile entre les forces armées congolaises et les milices du Congo. Les forces armées congolaises ont commencé à incendier des maisons, à brûler toutes choses. Et c'est pourquoi nous avons pris fuite. Si la paix arrive dans si peu de jours, nous pouvons retourner en arrière. Depuis que nous sommes arrivés ici maintenant, il n'y a rien vraiment comme nourriture. Il n'y a rien comme nourriture. Même l'eau à boire, il n'y a rien.
De la plage de Rumonge, ces réfugiés congolais transitent par un site de fortune à quelques mètres plus loin devant le tribunal de grande instance de la même localité, d'où ils seront conduits au centre de transit de Tchankouzo à l'est du Burundi. Mais d'autres sont conduits vers Gatumba, une ville située près d'Uvira, pour retourner chez eux. C'est du moins ce que nous a indiqué le conseil socioculturel du gouverneur de la province de Rumonge, Aaron Daïsenga.
On a pris la décision de désengorger cette plaque où on vient de prendre un bon nombre de ces gens-là vers le site de Kabumu à Tchankouzo. Il y a ceux qui restent ici qui vont voyager vers la frontière burundo-congolaise à Gatumba pour retourner chez eux au Congo.
Mais ces réfugiés font aussi face au choléra, comme l'affirme le conseiller du gouverneur.
Oui, nous en sommes au courant. Ces cas ont été constatés et alors les agents de la Croix-Rouge les ont dépêchés à l'hôpital et sont sous des traitements.
Quand l'on était à Rumonge, les réfugiés congolais continuaient de venir par le biais des petites et grandes pirogues locales. D'autres pirogues faisaient également le chemin inverse vers la RDC. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Libéria, le nouveau président George Weah a annoncé hier son intention de réviser la constitution de son pays pour supprimer une clause qui réserve la citoyenneté aux, et je cite, « personnes de couleur ». Il a aussi promis de réduire de 25% de son salaire, de réduire de 25% son salaire pour aider les plus pauvres. Après Samuel Doe, George Weah est le deuxième président de la plus ancienne République d'Afrique à ne pas appartenir à l'élite des descendants d'esclaves américains affranchis qui dominent la vie politique depuis 170 ans. D'abord, sur la réduction du salaire de George Weah, Idriss Fall a joint à Monrovia notre confrère Zoum Dosso.
Il a dit qu'il va réduire le salaire de 25% dans le but d'aider les pauvres. Parce que, comme il a dit, un gouvernement qui est en faveur des pauvres. Il a aussi exhorté tous ceux qui sont au sein du gouvernement de lui emboîter le pas.
Est-ce que vous pensez que les députés et sénateurs vont lui emboîter le pas?
C'est une question qui reste ouverte. Parce que quand il a fait cette déclaration, c'était lors de son discours à la nation pour le nouvel an. Et ça s'est fait toujours au Parlement. Tout le monde applaudit, mais personne n'a osé dire « Bon, monsieur le président, moi je te suis ». Comment on attend dans les prochains jours, on va voir s'il y a d'autres personnes qui vont lui emboîter le pas.
Il a aussi promis de supprimer la disposition réservant la citoyenneté aux personnes de couleur.
C'est un petit problème complexe et en même temps très simple à expliquer. Le Libéria, c'est un pays qui a été formé par des anciens esclaves qui sont venus des États-Unis. Ils ont été libérés ici sur une île qu'on appelle aussi aujourd'hui Problem Island. C'est un petit bateau qui est venu les déposer et ils sont venus en pensant à ce qu'ils ont subi aux États-Unis en tant qu'esclaves. Et ils ont former un pays qu'on appelle le Libéria. Libéria, c'est-à-dire à base de liberté. Alors, ils se sont dit que pour être citoyen du Libéria, il faut obligatoirement avoir la peau noire. Toute personne qui a la peau blanche ne devait pas se naturaliser au Libéria. C'est ce que la constitution initiale depuis 1848, c'est ce qu'elle dit. Cette constitution est restée jusqu'ici. Et George Weah lui dit, après plus d'un siècle, et aujourd'hui, il y a plein de Libériens qui se retrouvent aux États-Unis, qui avaient fui la guerre, qui se sont naturalisés aux États-Unis. Et quand ils reviennent au Libéria, on dit, non, vous n'êtes pas Libériens, vous êtes des étrangers. Pour lui, ça empêche au Libéria de progresser. Et il a même dit que dans les autres pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, les Libanais, les Blancs, ils arrivent à se naturaliser. Et pour avancer dans l'économie, il faut qu'on crée la même situation au Libéria.
C'est-à-dire que tu peux appeler des investisseurs étrangers. Quand tu es blanc au Libéria, actuellement, tu ne peux pas acheter de la terre, par exemple.
C'est impossible d'acheter une terre ici tant que tu n'as pas la peau noire. La constitution dit clairement qu'il faut avoir la peau noire, tu vas avoir une terre au Libéria. Tant que tu n'as pas la peau noire, tu ne peux pas acheter une terre. Un blanc ne peut pas. Que ce soit un Libanais, que ce soit un Chinois, tant que la peau est blanche, tu ne peux pas acheter une terre. C'est ce que la constitution actuelle dit.
Comme c'est une constitution copiée sur celle des États-Unis, est-ce qu'il sera facile de changer cette disposition?
Non, non. George Weah a dit tout simplement qu'il n'a pas demandé à ce qu'on change toute la constitution. Il a seulement dit que cette partie de la constitution fait que le Libéria n'arrive pas à progresser. Tu arrives au Libéria, ce sont généralement les Libanais, les Indiens, ce sont eux qui tiennent l'économie. Ils se font de l'argent ici et ils investissent ailleurs. Pour George Weah, si on leur avait donné l'occasion de se naturaliser, ils allaient acheter des terres ici et l'argent allait rester. Il a pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire, sur le Ghana.
C'était notre confrère Zoum Dosso à Monrovia, au Libéria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, de jeunes délinquants qui faisaient partie de bandes organisées ont maintenant la chance de changer leur vie grâce à un programme de rééducation d'un style militaire. Le reportage de Faith Lapidus, rendu par Solange Niamoulissa.
Les crimes violents sont en baisse dans les quartiers les plus pauvres d'Abidjan, où les gangs de jeunes âgés de 12 ans, surnommés les microbes, sèment la terreur dans les rues. Souvent hors de l'école, ces enfants sont la proie facile pour les adultes qui les utilisent pour commettre des crimes. Chantal Saré, commerçante.
Je vais, je les approche, pourquoi tu prends ça? Il me dit, maman, parce qu'il n'y a pas de travail. Et puis, bon, mes parents ne sont pas gentils avec moi, et puis, c'est comme ça.
Certains membres de ces gangs ne terrorisent plus leurs voisins. Ils ont passé 6 mois dans un camp de redressement à Wokoukro, dans un centre de réinsertion. Le programme organisé par le Conseil national de sécurité apprend aux jeunes délinquants la discipline du style militaire et les affaires comme la coupe-couture, la mécanique automobile qui leur permettront d'être réintégrés dans la société avec des connaissances utiles. Dans ces centres, ils cessent de consommer la drogue et ont une chance de s'y racheter. Maninyan Ouattara, coordonnateur du programme de réinsertion.
Et suite à cette désintoxication-là, ils sont plus aptes à suivre tout ce qui est cours de rééducation, notamment de civisme, citoyenneté, droits de l'homme, savoir-être, savoir-vivre, qui leur permettent véritablement de comprendre comment ils doivent mieux se comporter en société.
Depuis sa création fin 2016, 774 jeunes ont fini ces programmes et sont retournés à Abidjan. Certains ont trouvé du travail dans des ateliers de couture. Ousmane Traoré, styliste, témoigne.
Le gouvernement a envoyé ces enfants-là à Mbayakrou les former. Vraiment, on voit le résultat. Cette année, en tout cas, on reste là longtemps.
Les parents sont impatients de voir le retour des enfants à la maison et ont aussi hâte de voir les résultats. Mohamed Diallo, père d'un participant au programme.
C'est une bêtise de la vie que l'enfant a commis parce que le seul erreur qu'il a commis pour être ici, c'est parce qu'il m'a désobéi.
C'est pareil pour Djedje Traoré, une mère d'un participant à ce programme de rééducation.
C'est pour une correction qu'on envoie ici.
Pour ces jeunes, les cours, les sessions de thérapie et les formations ont fait une grande différence. Amadou Diallo a obtenu son certificat de formation.
Par rapport à mon séjour ici, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Ce qui a été dit, par la grâce de Dieu, tout ira bien.
Les diplômés et leur communauté auront une seconde chance grâce à ce programme d'appui à la recherche du travail, l'apprentissage et la poursuite des études.
VOA Afrique, vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h PU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voix de l'Amérique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.